Alors, pourquoi, comment lire la Bible? Bon, vaste sujet. Nous avons là une demi-heure. Et dans cette demi-heure, eh bien, nous allons tâcher de voir un petit peu, donc, de progresser autour de cette idée-là. Pourquoi, comment lire la Bible? Je pense que vous êtes tous, quand même, vous lisez tous la Bible. Le dimanche. Peut-être que qu'est-ce qui est habitué à une lecture fréquente de la Bible? Je sais pas, moi, tous les jours un passage, non pas trop. Alors, une autre question. Une autre question. Qui a lu déjà la Bible en entier? Oui, quand même. Oui, d'accord. Très bien. Très bien, très bien.
Ça ne veut pas dire que j'ai compris.
Ah non, mais ça non, ça c'est pas la question. La question n'est pas de savoir si on comprend ou on ne comprend pas, mais voilà. Mais bon, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes tous convaincus de l'utilité de la. Enfin, vous êtes attirés par la parole de Dieu, par la Bible. Alors moi, je suis contente de venir en parler avec Marie, hein, parce que j'appartiens à la communauté du Verbe de vie. Donc le Verbe de vie, c'est la parole de Dieu. Et que c'est une des bases de notre entrée en communauté. Je dirais, on passe toujours par la préparation à un parcours biblique qui dure une année. Donc, si je donne un petit peu mon petit témoignage personnel, juste pour commencer, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, je n'avais vraiment pas tellement d'attrait pour la Bible. Je peux dire vraiment, on m'avait offert pour ma communion solennelle une grosse Bible noire, couverture noire, tranche rouge. Bon, j'arrivais pas à me plonger dedans. Et quand j'ai eu 22 ans, j'ai été invitée par une de mes amies qui était dans un foyer de charité. Elle avait été dans ma classe, cette amie, et puis elle était rentrée là. Et elle m'a invitée à faire une retraite, suivre une retraite. J'y suis allée, c'était surtout pour la voir, elle, parce que sa vocation m'interpellait beaucoup. Surtout que moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout décidée, j'avais pas pris de décision vocationnelle. Et en ressortant de cette retraite qui a duré une semaine, eh bien, j'ai été bouleversée en fait par la rencontre que j'ai faite avec la parole de Dieu pendant ces 6 jours. Le prêtre nous parlait beaucoup de la parole de Dieu, il était tout le temps là avec son évangile. Et en sortant de là, je me suis dit, mais comment ai-je pu vivre déjà 22 ans sans la parole de Dieu? La première chose que j'ai fait en sortant de cette retraite, c'est courir m'acheter une petite Bible que je n'ai pas amenée ici ce soir, mais qui est toujours avec moi, qui est complètement, les feuilles sont toutes jaunes, mais je la fais relier quand elle en a besoin. Je ne veux plus m'en séparer. Voilà. Donc, j'ai découvert vraiment la puissance de la parole de Dieu et son attraction pendant cette retraite. Et après ça, j'ai commencé à prier avec la Bible. Donc ça, c'était juste un peu mon témoignage personnel. Mais surtout, c'était la question qui s'était formalisée en moi. Comment ai-je pu vivre 22 ans sans la parole de Dieu? Alors, après ça, Marie vous donnera son témoignage pour elle sur l'impact qu'a eu aussi la parole de Dieu dans sa vie, hein, pour l'amener à des changements, à des éclairages qu'elle nous racontera un petit peu. Alors là, ici, je vous lis un petit témoignage qui est tout à fait d'actualité. Vous savez qu'en Chine, on ne peut pas transporter de Bible. Autrefois, c'était dans les pays de l'Est de l'Europe. Maintenant, c'est encore en Chine. La Bible ne passe pas les frontières ou, si elle passe, c'est clandestinement. Un tribunal chinois vient d'inculper un homme d'affaires de Hong Kong pour avoir importé des Bibles. En 2000, il a fourni en deux chargements 33 000 exemplaires de la Bible à une secte chrétienne interdite en Chine. Au second voyage, il est arrêté. Il a 38 ans, il risque la peine de mort. En même temps, aussi, en Chine, on a le cas d'une paysanne de 34 ans, Jiang Zhongxiu, qui est arrêtée aussi, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle distribuait des Bibles autour d'elle, en prenant au risque, au péril de sa vie. On l'interpelle, la police l'arrête et rapporte son corps à sa famille le lendemain, le corps roué de coups. Morte, rouée de coups, pour avoir dit dans son interrogatoire en fait qu'elle avait diffusé des Bibles. Et donc, la Bible, eh bien, elle circule tout à fait clandestinement en Chine. On se l'arrache. Hein. Elle est interdite de vente dans les librairies en Chine, dans les librairies officielles. Chez nous, on la trouve partout. On la trouve dans toutes les librairies. Hein, et on ne se fait pas mettre à mort pour sa lecture ou pour sa diffusion. Voilà. Et pourtant, eh bien, j'irais en Chine, il y a des gens qui vont jusqu'à mourir pour diffuser la Bible. Et nous, quelquefois, moi je me dis moi-même la première, je me reproche parfois, certains jours, d'en avoir délaissé la fréquentation. Et d'un autre côté, il y a des chrétiens qui meurent pour cela, au péril de leur vie. Donc là, c'est déjà quelque chose qui nous montre un petit peu, je dirais, l'impact de cet ouvrage et son attraction, et combien il peut toucher des cœurs jusqu'à déclencher ce don de la vie par certains. Alors c'est un livre très populaire. J'ai découvert en préparant le cours des statistiques qui m'ont amusée, parce que je ne savais pas. Vous savez en combien de langues est traduit Tintin ? Combien de langues ? C'est déjà pas mal. Hein. Dites un chiffre. Non, un petit peu moins quand même. Enfin, ça a peut-être progressé depuis le cours. Là. 58 langues, c'est déjà pas mal hein, quand même. Voilà. Alors la Bible, dites un chiffre.
2800.
Vous êtes plus près. Hein. 2200. 2200 langues et dialectes, la Bible. Voilà. C'est extraordinaire. Donc c'est le livre le plus traduit du monde. J'ai des statistiques pour la France, j'en ai pas pour la Belgique là, mais en France, 50 millions d'exemplaires vendus chaque année dans le monde, dont 250 000 en France. C'est pas beaucoup, ça pourrait être plus en France. Bon. Alors, bah, vu les 60 millions d'habitants, ça pourrait être plus. Alors c'est un livre dont un personnage qu'on connaît bien ici chez nous, dans la région, disait que il avait perçu, bien qu'il était quand même un peu païen sur les bords, il avait perçu l'impact de ce livre. C'est Napoléon, qui a cette réflexion lumineuse mais très belle, qui dit ceci: l'Évangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d'efficace et chaleureux, qui agit sur l'entendement et charme le cœur. Napoléon. Ça lui a peut-être mérité le ciel, hein, voilà. Après la bataille de Waterloo. Bon. Et alors il ajoute, il termine, il dit: l'Évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Il a tout compris. Il a tout compris. Napoléon. Voilà. Alors, voilà, bon, c'est un livre traduit en plusieurs langues, qui attire les cœurs. C'est le livre le plus copié, le plus traduit. Et là, on sent se réaliser cette parole de l'Évangile: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu lui-même nourrit son peuple. Dieu lui-même nourrit les hommes. Cet été, on a eu l'occasion d'entendre le témoignage bouleversant d'un musulman échappé d'Iran, Joseph Fadel. Je ne sais pas si vous avez lu son livre, Le prix à payer. Joseph Fadel, quand il a découvert la parole de Dieu aussi, il ne pouvait plus s'en décrocher. C'est Le Coran ne faisait plus du tout le poids à côté de la Bible. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que cette parole attire tant le Coran, donc, que je cite, bon, avec tout le respect quand même que je lui dois, n'a pas cette attraction, ne touche pas les cœurs de cette manière-là. Mais la Bible touche les cœurs. Pourquoi ? Parce que c'est une parole, en fait, c'est Dieu qui nous parle. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu qui nourrit son peuple. Et c'est pourquoi tout homme, croyant ou pas, il est créé par Dieu, il est créé à l'image de Dieu, qu'il le sache ou non. Il a la marque de fabrique du potier qui est imprimée en lui. Et donc, quelque part, tout homme, en lisant la Bible, est capable de reconnaître le lien entre la Bible et la marque de fabrique qu'il porte en lui. Voilà. Donc, c'est là la clé du succès de la Bible. C'est que c'est Dieu qui parle, tout simplement. Alors, un livre de vie. Et comment Dieu va-t-il se révéler ? Comment Dieu se révèle-t-il ? Bon, bien, il y a des moyens, je dirais, qui ne sont pas la Bible elle-même, mais le moyen, je dirais, le plus simple pour un homme, par exemple, qui ne connaît pas Dieu, mais qui peut en avoir l'intuition, c'est tout simplement. simplement de regarder la beauté de la nature. Je repense à un de mes neveux qui est un croyant déclaré, qui a tout envoyé promener. Mais un jour, il m'a lâché cette confidence. Il aime beaucoup faire de la montagne. Et il m'a dit, moi, c'est quand je suis sur des grandes parois verticales, c'est là que je rencontre Dieu. Voilà. La nature, contact avec la création, la nature, l'univers minéral, tout ça. Voilà. Donc, nous, quand nous regardons la beauté de la nature, c'est vrai, on se sent relié à Dieu. Je crois que tout le monde fait cette expérience-là. Mais c'est une connaissance qui est quand même, j'irais, très limitée. On a une intuition. On a une intuition de quelque chose de divin qui nous dépasse. Mais c'est tout. Et Dieu, eh bien, en fait, va se révéler, pas seulement par la belle nature, pas seulement par la beauté, la grandeur de sa création, mais il a décidé lui-même en son conseil de la Trinité, il fallait bien venir parler aux hommes, il fallait bien venir directement parler aux hommes. Et là, nous sommes aussi l'unique religion, la religion chrétienne, l'unique religion où Dieu vient parler aux hommes en rentrant dans le détail de leur vie la plus concrète. Vous allez me dire, l'islam, dans le Coran, Dieu aussi s'adresse aux hommes. Mais ce n'est pas la même chose. Le Coran, c'est un ouvrage dicté par l'ange Gabriel, si je ne me trompe, à Mahomet. La Bible, c'est tout autre chose. Parce que, en fait, Dieu, pour parler aux hommes, va utiliser les hommes, va demander leur collaboration à des hommes. Et on n'aura pas une parole, je dirais, qui va tomber du ciel, désincarnée, mais la parole de Dieu va prendre le chemin de notre humanité pour rejoindre l'humanité. Donc Dieu va employer l'intelligence, la culture, la sensibilité des hommes, hein, des écrivains, des auteurs, va les habiter par son Esprit Saint, et ces personnes, ces auteurs sacrés, eh bien, vont traduire avec toute leur fibre, hein, de culture, de poète, de chroniqueur, d'historien, de narrateur, ils vont traduire quelque chose de la parole de Dieu. Ça, c'est bouleversant. Et ça montre le respect infini de Dieu qui utilise sa créature comme collaboratrice, qui nous propose cette collaboration. C'est comme cela qu'on va avoir une variété énorme dans la Bible. Combien d'auteurs dans la Bible, à votre avis? Combien d'auteurs? Hein? Si, on peut dire quand même à peu près. Oui, c'est ça, une quarantaine d'auteurs. Une quarantaine d'auteurs, des rois, savants, des philosophes, quand on lit le livre de la sagesse, des pêcheurs, Saint-Pierre, pêcheur de poissons, poète, historien, et il y a même un percepteur, Matthieu, un médecin, Luc, un fabricant de tentes, Saint-Paul. C'est vrai, c'est beau de penser à ça. Qu'est-ce qu'il faisait quand on est à la messe? Lecture de la première épître de Saint-Paul, etc. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre. Et on ne pense pas quels sont les hommes par derrière. Voilà, un fabricant de tentes, un médecin, un percepteur, David, un roi, etc. Donc, en fait, c'est magnifique cette collaboration complètement variée et éclectique de Dieu qui prend tous ces hommes et puis qui les habite de son Esprit Saint, et ça nous donne sa parole. Ce qui fait que la Bible est compréhensible par une variété infinie de personnes. Voilà. Si c'était une personne unique, si ça n'avait été que le fabricant de temps qui avait tout écrit, on ne s'y retrouverait peut-être pas. Bon. Voilà. Et donc, c'est une écriture inspirée. C'est là où c'est magnifique. C'est l'Esprit Saint qui se joint à l'esprit de l'homme. Saint Paul dit, toute écriture est inspirée par Dieu. En 2 Timothée 3. Mais bien sûr, Dieu n'a pas dicté, là aussi je souligne, même à la différence du Coran, Dieu n'a pas dicté, mais au contraire, je dirais, il a mis son esprit dans l'auteur sacré qui a retransmis. Et là, ça, c'est ça qui est important. Et donc la Bible, c'est à la fois une œuvre totalement humaine et totalement inspirée par Dieu. C'est ça qui doit nous inspirer grande confiance, grande sécurité, totalement humaine et totalement inspirée par Dieu. Si bien qu'on peut dire que Dieu est vraiment l'auteur des Écritures. C'est ce que dit saint Irénée de Lyon. Même Martin Luther, bon alors, évidemment, qui n'est pas catholique, hein, mais qui est protestant, qui dit « Les Écritures ne se sont jamais trompées. » C'est vrai, inspirées par Dieu, elles sont exactes. Et plus près de nous, le Concile Vatican II dit ceci « Les Écritures composées sous l'inspiration du Saint-Esprit ont Dieu pour auteur et sont donc sans erreur. » Donc là, ça c'est quelque chose d'important aussi pour la guidance, pour la gouverne de nos vies, savoir que l'Écriture ne se trompe pas. J'ajoute un petit complément. L'Écriture, encore, faut-il bien l'interpréter. Si on est livré à notre seule interprétation personnelle des Écritures, on risque peut-être de ne pas toujours capter ce que l'Esprit-Saint a voulu dire. Quelquefois, on a besoin d'explications. La preuve, vous venez au parcours Alpha. Moi, j'ai fait une année sabbatique au Verbe de vie pour comprendre vraiment ce que c'était que la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui nous donne la clé de l'interprétation de la parole de Dieu ? Pour être sûr qu'il y a de ne pas se tromper. J'ai entendu. Le discernement, oui, c'est l'Église. C'est en Église, c'est quand on lit la parole de Dieu en Église, hein, en conformité, je dirais, avec l'enseignement de toute la tradition de l'Église depuis 2000 ans, que là, on est sûr de recevoir vraiment ce que l'Esprit-Saint veut nous dire. Là, ça c'est important. Je dis un peu à la différence quand même des protestants. Je croyais peut-être des protestants parmi nous, non ? Il n'y en a pas. Hein ? Mais bon, c'est vrai, dans le protestantisme, c'est la relation directe de la personne à l'écriture, et c'est déjà très beau. Hein, faut commencer par là. Mais dans le catholicisme, c'est en même temps, je dirais, la lecture de toute la parole de Dieu et la réception de la parole de Dieu dans l'Église, en Église. Dans le cadre de la tradition de l'Église et de tout ce que des siècles de vie ecclésiale nous ont appris pour comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est important. Alors, comment traiter parfois les difficultés ? Tout à l'heure, quelqu'un a dit « je ne comprends pas tout ». Heureusement, c'est Sainte Thérèse d'Avila aussi qui disait qu'elle ne comprenait pas tout dans l'Écriture. Mais elle ne s'en chagrinait pas. Et quand elle butait sur un passage, elle qui était Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, laisser le passage de côté, quitte à y revenir après. Voilà, tout simplement. Et nous, c'est la même chose. Ne butons pas rationnellement. Bon, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois. Hein, ou tout d'un coup, on aura une autre explication. Et en sachant aussi que l'Écriture, elle s'explique toujours par elle-même. La parole de Dieu, quand on a la Bible, eh bien, un passage va être éclairé par quantité d'autres passages qui ont déjà été écrits avant ou après. Je ne sais pas si vous avez une Bible comme la Bible de Jérusalem. Il y a toutes les petites notes qui sont en marge ou en dessous. Et en fait, ça n'est ni plus ni moins que l'explication des versets par d'autres versets de la Bible. Donc quand on lit un verset qu'on ne comprend pas, il suffit de se reporter aux renvois qui nous ont fait d'autres passages et puis ça va nous éclairer peut-être. Voilà, on va comprendre mieux, du moins. Mais surtout, celui qui fait comprendre beaucoup, c'est l'Esprit-Saint. Et puis, quand on la reçoit en communauté, je dirais, les frères et sœurs, hein, avec qui on la partage aussi. Il y en a qui partagent, qui ont des groupes de partage biblique ici. Hein. Voilà, ce besoin de partager ensemble la parole de Dieu. Alors, un petit peu d'humour avec Mark Twain. On demandait à Mark Twain, ça ne vous gêne pas ces passages difficiles de la Bible ? Il répondait, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas qui m'inquiètent, c'est ce que je comprends. Voilà, donc ça veut dire, quand je comprends la Bible, je vois que ça me remet devant ce que je dois faire, devant ce que je dois être, et alors là, je me dis, il y a peut-être un peu de travail. Voilà, donc Mark Twain, hein, ce n'est pas les passages que je ne comprends pas qui m'inquiètent, c'est ce que je comprends. Voilà, conversion à la clé. Alors, l'importance aussi, c'est que la Bible, en fait, beaucoup des récits de la Bible sont des récits historiques, notamment les évangiles. Et ça, c'est important. La Bible n'est pas seulement un écrit spirituel. La Bible, c'est l'histoire de Dieu, la relation de Dieu dans l'histoire des hommes. Et par exemple, l'évangile, eh bien, les évangiles sont des récits historiques. Ça, c'est très important. Jésus a eu une existence historique. Je le dis parce qu'actuellement, il y a certaines tendances qui sont contre le Jésus de l'histoire. On veut en faire un espèce de personnage un peu vague, hein, qui n'a pas d'assise historique. Eh bien, si. Hein. Et quand on voit Saint-Luc, eh bien, Saint-Luc commence au chapitre 3 par des précisions historiques très importantes. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe son frère, tétrarque du pays d'Iturée, etc. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc Saint-Luc, il a mis tout le contexte historique, tout le cadre historique de l'époque. Même un personnage comme Abraham, c'est un personnage historique aussi. Voilà. Un personnage historique, ce n'est pas un personnage inventé par un auteur sacré. Et ça nous rend la Bible d'autant plus crédible. Ce sont des êtres de chair et de sang qui sont dans la parole de Dieu et puis, qui ont rencontré Dieu personnellement. Et c'est cette expérience de rencontre que la Bible, que la parole de Dieu nous retransmet. Donc en fait, rien d'étonnant à ce que quand on se plonge dans la Bible, on y retrouve toutes nos situations de vie, plus ou moins. Voilà. Alors c'est aussi un livre de vie. C'est un livre de vie. Alors souvent, on a peur justement des commandements. Et on se dit, mon Dieu, comme Mark Twain, si je découvre tout ce que je dois faire pour être en règle avec Dieu, c'est très contraignant. Et on a peur, quelquefois, en lisant la parole de Dieu, de devoir se plier à des tas de commandements. Pourtant, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis, il me dit, écoutez ma parole, hein, mettez mes commandements en pratique. Alors, il nous faut bien, en fait, avoir quand même un cadre de vie. Et la parole de Dieu, elle va nous donner, elle nous donne ce cadre de vie. Je vous donne encore ici un petit témoignage amusant, voilà, une image, en fait. C'est un homme qui raconte qu'il est allé voir son fils qui jouait dans un match de foot à l'école. 22 petits bonshommes de 8 ans, tous les enfants sont là avec leurs parents, on attend que le match commence, il manque l'arbitre. Et voilà qu'on désigne ce brave père de famille comme arbitre. Bon, il n'avait jamais fait ça. Alors il accepte quand même, et il n'a que des ennuis, parce qu'il n'avait pas de sifflet, les joueurs n'avaient pas de couleur pour différencier les équipes, le terrain n'était pas marqué. Et alors, il ne connaissait pas vraiment les règles et il n'arrivait pas non plus donc, à discerner les équipes. Alors, les enfants crient dans tous les sens et c'est la pagaille la plus complète dans le match. Heureusement, arrive l'arbitre. En retard, mais il arrive quand même. Il s'était trompé d'heure. Il donne un coup de sifflet, il balise le terrain, il met les enfants chacun dans leur équipe et le match commence pour de bon et c'est un ballet bien organisé et c'est un match magnifique. Ben, il a fallu donner quelques règles, tout simplement. Donc ça, c'est une petite image pour nous faire comprendre que derrière la perception parfois un peu spontanée qu'on peut avoir de refuser des règles, des commandements, en fait, s'il n'y a pas un cadre qui est délimité, on ne peut pas être libre dans le cadre. Là, les enfants ont pu exprimer leur meilleure liberté dans ce match en faisant à l'intérieur du cadre qui était fixé. Et la parole de Dieu, elle nous donne, c'est vrai, le cadre. On pense au décalogue, par exemple, ou alors aux béatitudes. Et Dieu, en fait, ne nous a pas donné ce livre pour restreindre notre liberté, mais au contraire pour nous rendre libres. Parce qu'on est libérés de nous-mêmes. C'est ça qui est important. On gagne vraiment, on est vraiment libre. Alors, une fois que le cadre est fixé, eh bien, Dieu va pouvoir dire à l'homme tout son amour à travers sa parole. Alors là, ben, je vais laisser Marie nous donner le témoignage un peu de la manière dont elle a rencontré le Seigneur et comment le Seigneur lui a, je dirais, transmis son amour à travers sa parole.
Alors très brièvement me présenter, je suis de famille chrétienne, oui, élevée dans toutes les bonnes écoles catholiques de Belgique, voilà. Et puis ben, à 18 ans, j'ai tout relégué. Voilà, il ne fallait plus me parler du bon Dieu, j'en avais eu assez pendant le temps de mes études. Hein. Voilà. Alors, comme sœur Anne-Elisabeth, j'avais aussi reçu une très belle Bible à ma profession de foi. C'était sur mon étagère, ça prenait la poussière, et puis point, ça ne m'intéressait pas. La première partie, Ancien Testament, c'était une histoire, oui, bien. Le Nouveau Testament, ben, intéressant, parce que je l'entendais quand j'allais à la messe, mais pas plus. Ça ne résonnait pas dans ma vie, et ça faisait partie de rien du tout pour moi. Voilà, pardon pour ce que je dis, mais c'est pour vous situer le contexte. Alors, dans tout ça, ben, j'ai grandi, je me suis quand même mariée à l'église, mais ça, c'est parce que ça faisait bien. Hein. Voilà, ça s'arrêtait aussi là. Voilà. Et puis, bon, comme beaucoup, et je ne m'en cache pas, j'ai cherché dans toutes sortes de moyens à connaître les sécurités pour ma vie. Alors, c'était un tas de choses, les belles études, le machin, enfin, tout ça, pour me réaliser. Et puis, il y avait le sacro-saint horoscope avec lequel je ne pouvais rien faire si je ne l'avais pas lu, si je ne l'avais pas entendu à la radio. Enfin, donc, il faut d'abord que je l'entende, et puis après que je le lise, voir si le journal confirmait bien. Enfin, vous voyez où j'allais chercher mes sécurités et mes garanties. Alors, pour être bien sûr que j'étais dans le bon chemin, j'achetais toutes les revues et je faisais tous les tests de savoir si j'allais réussir, bien passer par ici, bien passer par là, être bien habillée. Enfin bon, le genre de truc, tout ce qu'il y a de plus futile, qui vous déséquilibre complètement et qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus comment on s'appelle, ni où on va, ni ce qu'on va faire. Et un jour dans une réunion, parce que quand même, j'avais mis mes enfants au caté, attention, oui, parce que ça faisait partie aussi. Alors, Odette, elle connaît ce temps-là, le début. Alors, en 75, je suis dans une réunion à la paroisse, et puis j'entends qu'on parle de la Bible, je dis, oh, c'est pas vrai, ils sont encore là avec ce livre. Non, aujourd'hui, il faut quelque chose de vivant, et la Bible, c'est un vieux livre. Voilà. Bon, et puis il y a une phrase qui vient. Mais alors là, ça m'est tombé dessus. Ton nom est inscrit dans le creux de ma main. Oui. Je dis, ben, si mon nom est inscrit dans le creux de la main de Dieu, l'horoscope, c'est du vent, enfin. C'était très vite. Le lendemain matin, j'ai plus voulu écouter à la radio, ça oui, mais je me suis dit, où est ma Bible? Que j'aille voir où est ce texte. Et j'ai cherché ma Bible, je l'ai trouvée au grenier, dans le quatrième carton, en dessous de je ne sais tout quel fatras. Et bon, et puis bon, voilà, commencer à lire pour trouver. Alors plein de belles choses qui surgissaient dans ce livre, et qui me disaient, mais voilà les solutions, même dans l'ancien, c'est bon, c'est d'aujourd'hui, enfin voilà. Et donc cette parole, tout le temps, ton nom est inscrit dans le creux de ma main, et tu as du prix à mes yeux. Et je dis, oh, j'ai dit, Seigneur. Donc ça m'a vraiment donné une soif. Et j'ai commencé à la lire, alors systématiquement. Alors, en 75, je vais vous dire, j'avais 33 ans, vous voyez, donc. J'ai commencé à lire la Bible, mais vraiment avaler tout ça. Je ne comprenais rien, ça c'est sûr. Je me cassais le nez sur un tas de trucs, mais je sentais qu'il fallait lire. C'était quelque chose de merveilleux qui m'attendait, voilà. J'ai lu, voilà. Mon mari croyait que je devenais folle. D'ailleurs, il me disait, mais ça ne va pas, tous les soirs, tu lis la Bible. Voilà. Jusqu'au moment où je suis tombée sur le livre d'Osée, c'est l'Ancien Testament, où il est dit, je te mènerai au désert, et je parlerai à ton cœur, je te séduirai, et je parlerai à ton cœur. Oh, mais non seulement je suis dans sa main, mais il veut parler à mon cœur. Ça, c'est extraordinaire. Moi qui cherchais tous les chemins, tout azimut, hein, et puis là, c'était clair et net. Donc cette parole de Dieu n'est plus devenue simplement un bouquin qu'il fallait avaler pour être branché, comme on dit, mais quelque chose d'important, un cadeau merveilleux. Et ce n'était pas uniquement quelque chose, c'était quelqu'un qui me parlait. Donc quand quelqu'un me parle, je l'écoute. Et quand il me dit qu'il m'aime, je vais quand même essayer d'aller voir ce qu'il veut me dire. Et donc j'ai continué, jusqu'au moment où ben, j'ai trouvé justement, tu as du prix à mes yeux, encore. Allez, on continue. Et puis c'était, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça va me faire vivre, Seigneur. Et tout ça s'est passé en 6 mois de temps, ce que je vous dis là. Donc vous imaginez la Bible qui rentre comme ça, voilà, pour atterrir dans un groupe de prière et pour démarrer sur la parole de Dieu en se disant, mais il faut l'écouter. Bon, jusqu'au moment où c'est devenu pour moi quelque chose de normal, la parole de Dieu, voilà, elle était là. Et je me suis surprise à la reprendre comme presque les horoscopes. J'ouvrais la Bible pour me dire, tiens, il y a peut-être une petite réponse. Et j'allais chercher. Ça ne me plaisait pas, je cherchais un autre paragraphe. Tourisme. Donc voilà. Là aussi, on ne fait pas avec la parole de Dieu ce qu'on veut. Elle nous dit quelque chose à l'instant précis. Et pas la peine d'aller voir trois chapitres plus loin ou deux avant. Enfin, le Seigneur sait ce qu'il nous donne au bon moment. Et ça a été tellement fort que ben, il a fallu plonger encore davantage et finir par faire, comme toi, une année sabbatique, le parcours biblique en avant. Et vraiment, aujourd'hui, je sais que le Seigneur est un amoureux fou de chacun de nous. Et dans sa parole, quel que soit le livre que vous lisez, il a une parole d'amour pour vous, au bon moment. Et moi, c'est mon grand bonheur aujourd'hui. C'est ma colonne vertébrale, en tout cas. Parce que ça allait dans tous les sens, hein, j'aime autant vous le dire. Mais là, si je reste bien fidèle à ce qu'il me dit, eh bien ça va marcher. Et j'ai aucune crainte à avoir, il me donne ce qu'il faut à dose homéopathique. Merci Seigneur.
Je vais juste terminer. Merci Marie. Voilà, donc après le témoignage de Marie, eh bien, vous avez compris, la Bible... La parole de Dieu, c'est une présence vivante. Ça peut transformer tout dans notre vie. Mais la finalité de la lecture de la Bible, comme Marie l'a bien montré dans son témoignage, c'est d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est ça la finalité. C'est pas de se passionner pour des points d'exégèse ou des choses comme ça. On pourrait aussi lire la Bible avec, en s'intéressant à l'exégèse de manière pointue. Mais c'est pas ça. L'important, c'est vraiment... de chercher la relation intime avec Dieu. Jésus nous dit ceci encore, « Vous étudiez les Écritures, » il s'adresse là aux pharisiens, « mais vous êtes hors sujet parce que vous n'êtes pas venu à moi. La vie n'est pas dans le livre, elle est dans la personne, dans la relation avec moi. Si quelqu'un m'aime, » là c'était une paraphrase de l'Évangile, « si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et avec la lecture de la parole de Dieu, c'est ce qui se passe. On reçoit la parole de Dieu comme on reçoit une lettre d'amour, hein, et on la garde dans notre cœur, et elle porte du fruit. Et donc, le fruit de la parole de Dieu, eh bien, ça va être justement de nous donner une foi renforcée. Notre foi va grandir. En lisant la parole, notre foi va grandir. Notre vie va être transformée, et... la présence de Dieu va nous devenir, je dirais, Dieu va nous devenir plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. On ne va plus pouvoir, je dirais, se séparer du Seigneur. Et plus nous lisons la Bible, plus, en fait, eh bien, nous sentons attirés à nous y plonger, tout simplement, parce que nous recevons, nous sommes branchés sur ce message d'amour vital de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui nous parle, qui éclaire complètement notre vie. Alors, pour terminer, quelques points très pratiques. Comment entendre la voix de Dieu dans la Bible ? Eh bien, d'abord, il faut prendre du temps. Il faut consacrer du temps pour lire la parole de Dieu. Il faut s'y plonger. Ça, c'est à chacun de voir un petit peu. Commencer par 5-7 minutes par jour. Ensuite, il faut choisir un bon lieu. Il faut se mettre au calme, comme Jésus qui se mettait à l'écart pour prier. On peut noter, hein, on peut aussi noter sur son agenda à tel moment, telle cette semaine, je prendrai un temps pour lire la Bible. La méthode aussi, c'est demander à Dieu d'avoir une réceptivité, d'être à l'écoute, comme Samuel, de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », et non pas de dire « Seigneur, écoute Seigneur, ton serviteur parle ». Voilà. Ah, voilà. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Voilà, et non pas « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » Voilà. Alors, pour bien lire avec fruit la Bible, eh bien, il faut lire d'abord le texte une fois, mais plus souvent deux ou trois fois. Parce que rarement, on s'en pénètre bien du premier coup. Et là, quand on lit le texte, la première démarche à faire, c'est d'abord de ne pas chercher le sens interprétatif, mais de dire objectivement, que veut dire ce texte ? Littéralement, que veut dire ces mots que je lis. Donc le sens objectif, littéral du texte. Puis après ça, hein, après seulement, eh bien, on va pouvoir voir ce que ce texte me dit pour ma vie morale, par exemple, quel conseil me donne ma vie spirituelle, hein, chercher une aide, voilà, comme ce que disait Marie. Et aussi, un troisième point, je pense, voir aussi ce que ce texte me révèle de Dieu lui-même, ou de Jésus. Donc, trois choses. D'abord, première chose, pour être sûr de ne pas me planter, hein, de ne pas partir dans des fumées, là, lecture objective du texte. Premier point. Deuxième point, le sens moral. Hein. Et le troisième point, qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu, de Jésus, tout simplement. Alors voilà, tout simplement, eh bien, maintenant, je vous dirais, quand vous lisez la Bible, pensez, quand nous lisons la Bible, pensons toujours que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et qu'à travers sa parole, que nous ouvrons, et qui au premier abord peut parfois ne pas nous attirer. Le passage, on peut tomber sur des passages qui ne disent rien du tout. Mais il a quelque chose à nous dire. Parce que c'est sa parole, inspirée par l'Esprit Saint. Et la première de toutes les conditions, avant même de commencer à méditer le passage, c'est d'implorer l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, qui est l'auteur de la Bible, hein, qui est l'inspirateur de la Bible, eh bien s'il ne vient pas inspirer l'esprit du lecteur, c'est terminé. On ne pourra pas comprendre. Il faut d'abord mettre la radio sur la bonne fréquence. Hein. Donc, voilà. La fréquence, pour avoir la bonne fréquence, hein, l'ajustement de la fréquence, eh bien, c'est la prière à l'Esprit Saint, avant de commencer à lire la Bible. Puis après ça, la lire. Voilà. Et puis la méditer suivant ces trois grandes séquences, là, ces trois conseils. Voilà. Et penser que le but de notre lecture n'est pas simplement de lire, mais que Dieu veut nous rencontrer et veut toucher notre cœur. C'est la rencontre personnelle avec le Seigneur et son amour, en fait. C'est toujours ça. Ce n'est pas simplement l'intérêt intellectuel qui doit nous guider pour lire la Bible. On lit une lettre d'amour, voilà, tout simplement. Voilà. Je vais terminer par une petite prière, quand même, juste. Père, nous te remercions pour la parole de Dieu. Merci de nous parler à travers la Bible. Merci de nous inviter par elle à entrer en communion avec toi à travers Jésus-Christ. Père, nous te demandons que chacun d'entre nous ici, nous puissions connaître cette relation et grandir en elle en t'écoutant parler chaque jour à travers ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.